Where I'm from, there's a lot going on. English meets French in every borough. No matter where you're from, downtown, DG, Laval, South Shore, West Side, North Side. In my city, every culture coincides. The African diasporas will collide. You are now tuned in with Jess and Annabelle. That's where we at, where we at, where we at, MTL.
Bonjour tout le monde.
Allô.
Allô.
Aujourd'hui, on a un invité spécial, Mervin Kibamba.
Merci.
Quoi?
Merci. Comment tu vas?
Je vais très bien et toi, Annabelle?
Ça va super bien. Moi et Jess, on est super emballés de t'avoir aujourd'hui.
Moi aussi, je vais bien.
On est là pour un sujet spécifique. Ouais. Avec toi aujourd'hui, on va pouvoir en parler un petit peu plus du pouvoir économique parce que en fait, on peut te laisser te présenter. Parle-nous un peu de ton background,
okay,
juste avant qu'on embarque. Ouais.
Alors, Mervin Kibamba, je suis congolais, africain. Ça fait plus de 15 ans que je vis maintenant au Canada. Je suis venu ici avec toute la famille. On est immigré à cause d'une guerre civile qui s'était passée dans le pays dans les années 91. Alors, fait que là, ça fait maintenant 5 ans que je suis à Montréal. Et j'ai une grosse passion sur l'économie et le domaine de l'immobilier, l'investissement en général. Je suis pas un professionnel, mais c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose que j'aime bien en parler.
Mais t'es dans le domaine.
Oui, je suis dans le domaine. Ouais, je travaille en immobilier en ce moment. C'est dans la gestion immobilière. Alors c'est la gestion de cours de tours d'appartements, okay, plutôt. Ouais. Fait que c'est ça que je fais Monday until Friday.
Ouais. Puis qu'est-ce qui fait que c'est justement une de tes passions depuis longtemps, l'immobilier?
L'immobilier, c'est une de mes passions du fait que, de par famille, l'immobilier a toujours été important. Grand-père, parents, avoir un terrain, avoir un bien matériel, ça a toujours été quelque chose de un peu comme un but. Mm-hmm. Tu grandis, tu vas à l'école, tu travailles, tu t'assures pour avoir un bien. Et j'imagine que moi, à travers ma création, j'ai été la personne la plus intense chez moi dans cette sphère-là. Fait que là, depuis que j'ai à peu près 18 ans, que l'immobilier, ça a toujours été un peu ce que je voulais faire. Ouais. Cool. Mais là, avec le temps, l'immobilier, c'est une sphère. Mais je pense que la chose qui me passionne le plus, c'est l'investissement en général. C'est le développement des affaires, c'est l'investissement. C'est juste de comprendre comment l'économie en général roule. Mm-hmm. Et à Montréal, j'ai eu la chance de commencer, mais pas de terminer, un bac en économie. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'en mange. Ouais.
Nice. Ouais. Cool.
Puis dans le fond, tu sais, tantôt, t'as nommé rapidement que t'étais congolais. Moi et Jess, on a récemment commencé l'écoute d'un autre podcast, Kif Taras.
Ça s'appelle Kif Taras. C'est un podcast français.
Okay.
Donc, c'est par deux femmes plutôt, qui pas mal comme nous, interviewer des gens ou ont des discussions avec des gens sur tellement de sujets différents. Ça peut être l'appropriation culturelle. Il y avait une photographe aussi qui parlait de son expérience autant à Paris qu'à New York. C'est quoi les différences au niveau du traitement? Puis des trucs comme ça. Fait que c'est un podcast super intéressant. Puis au début, les filles qui ont le podcast demandent à leur invité de s'identifier, de se positionner plutôt, genre. Fait que tu le fais naturellement.
De se positionner vraiment comme plus sur le plan racial. Ouais.
Racial, OK.
Est-ce que toi, d'emblée aussi, quand tu te présentes aux autres, tu vas plus te présenter comme un Québécois, un Canadien, un Africain, un Congolais, un homme noir?
Je crois un concept que l'Afrique devrait être unie. Alors, j'aime bien me présenter en tant qu'Africain. Congolais, pour moi, c'est beaucoup plus juste mon langage ou plus ou moins la culture qui se résume à notre danse ou la musique que j'apprécie bien, mais je me considère beaucoup plus africain. J'ai cette idée que l'Afrique doit être unie. Alors si je vis au nord, à l'est, l'ouest, je suis africain. Et je suis aussi fier de dire que je suis canadien. Le Canada, c'est un très beau pays. Ça m'a permis de me... En quelque sorte, je ne crois pas que mes aspirations, j'aurais pu les découvrir en Afrique. J'imagine que j'aurais pu, c'est une question que je n'aurai jamais la réponse. Mais j'apprécie énormément le fait que j'ai eu la chance de venir ici, de m'éduquer, de comprendre plein de choses. Ça m'a juste permis de développer plus d'outils que je ne pense pas que j'aurais été capable de faire en Afrique.
Oui, j'ai exactement la même opinion. Quand on me demande d'où je viens, ben moi, je réponds tout le temps que je suis béninoise. Puis là, je précise ça en Afrique pour les ignorants.
On sait jamais.
Tu serais tellement surpris. Ouais. Puis là, après ça, ils me disent « Ouais, mais tu parles comme... T'as pas d'accent, là. » Je suis genre... Mm-hmm. J'ai pas l'accent selon toi, j'ai un accent selon d'autres personnes, mais effectivement, je suis presque née ici, genre, je suis arrivée ici à 3 ans et demi, fait que j'ai grandi au Québec, so, ça explique pourquoi je parle de... avec une certaine façon, puis ça explique aussi que je veux dire, je pense pas qu'à 25 ans, j'aurais été blogueuse au Bénin en Afrique, tu sais. Ouais. Peut-être.
C'est mais, ça. Mais...
mais me connaissant, je veux dire, je suis une foodie. Puis est-ce que j'aurais pas été cette personne-là si j'avais grandi ailleurs? Je saurais jamais, tu sais. Mais je suis... excusez, je suis tellement, tu sais, grateful d'être ici. Puis le privilège qu'on a d'être au Canada, je sais pas si les gens qui sont juste nés ici puis qui ont pas ma réalité, mettons, s'en rendre compte. Mais juste selon la position géographique où je suis, genre... je suis fucking privilégiée, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Faut s'en rappeler.
Je suis d'accord. Moi aussi, on s'est situé un peu dans les épisodes précédents, mais c'est ce podcast-là des deux filles de Kif Taras nous... je pense que ça va un petit peu peaufiner la manière de comment on va se positionner avec les invités dans le podcast. Mais moi, de mon côté, j'en parlais un peu plus tôt avec une amie marocaine aujourd'hui du combat un peu qui est toujours constant au niveau des identités quand justement on est dans un entre-deux où est-ce que ici c'est pas notre pays d'origine, mais ça fait des années qu'on vit ici puis qu'on s'est intégré. Donc c'est de dire, je pense que c'est pas tellement de choisir une identité, mais plutôt dire qu'il y a comme des micro-identités selon les groupes.
Exactement.
Là, ici, on est des minorités visibles entre nous, donc on a un gros sentiment de similitude, mais on sort du podcast, peut-être qu'on serait pas tous liés de la même manière. Donc, moi, j'étais encore un peu en évolution dans mon identité, comme plus au niveau littéral, mais je pense peut-être un peu... des fois, il y a le terme sino-québécoise, donc c'est dire... t'es d'origine chinoise, puis ben t'es au Québec. Parce que c'est clair que, comme tu dis, Jess, moi, c'est totalement la même chose. Mon identité serait pas la même si j'étais en Chine aujourd'hui. Exact. Je serais probablement pas sexologue et psychothérapeute, on s'entend. Oui, c'est clair.
L'environnement est différent, la réalité est différente.
Oui,
alors
vraiment.
La pression sociale est différente. Tu penseras à faire autre chose.
Les opportunités aussi sont vraiment différentes.
Exact.
Donc, oui.
Tout à fait. Ouais. Ben bon, c'est cool de savoir un peu en premier où tu te situes sur le plan racial, parce que on a rarement la chance dans la vie de tous les jours de se définir
genre allô, je suis noire, ouais. Je viens de tel endroit, puis, ouais.
Et c'est pas quelque chose que j'ai développé rapidement, ça m'a pris un certain temps, et pour moi je pense que le déclic, j'appelle ça un peu s'accepter, c'est une question d'avoir confiance en soi, et c'est pas quelque chose qui est facile à développer. Si t'as grandi dans une place où t'es genre une minorité, fait que si t'es dans une école, par exemple, secondaire ou primaire, et t'es la seule personne noire, ben tu te bases sur quoi pour avoir une identité?
Bon,
certaines personnes sont chanceux, ils ont de la famille, ils ont peut-être des grands-parents qui vivent, mais pour moi, c'est j'ai eu mes frères, mes parents m'ont beaucoup aidé par rapport à ça, mais c'est pas assez. Les parents, des fois, ils vont nous dire des choses, mais ça nous passe à travers.
Ouais.
C'est tout. Fait que c'est vraiment... ça a pris du temps, et là, je pense que... là, j'ai 28. Fait que là, je pense que Je commence un peu à avoir beaucoup plus certaines idées sur qui que je suis. Et, et pour ça, je le donne beaucoup à mes parents, à mes grands-parents. Et c'est vraiment... c'est là où j'ai le déclic. Surtout avec mon grand-père, j'ai eu la chance de le voir. Il a 106. Et souvent... j'ai l'éthique de fou.
Mon grand-père a 106 ans.
106 et tout. Je m'attendais à voir quelqu'un de très fatigué et tout. C'était de voir que les choses que je pensais qui étaient... unique en ma personne, que non, c'était partagé dans la famille.
Comme
Premièrement, le fait que j'aime l'immobilier. Like, je me rappelle quand j'étais au secondaire et tout, j'avais le foot américain, mais c'était pas quelque chose que les gens aimaient. Fait que je me trouvais un peu, genre, pas bizarre, mais genre spécial dans ma manière de penser. Mais là, en voyant mes grands-parents et tout, c'est là qu'on dirait que j'ai compris. Parce que c'est quelque chose que dans la famille, on en parle.
Mm-hmm.
Fait que c'est là qu'on dirait que mon identité a commencé à se former. Et là, ma confiance en soi... Le fait que je me sois accepté, que cette famille, c'est normal et c'est comme ça que
Est-ce que tu sens que tu as une pression d'avoir l'immobilier comme passion, ou c'est juste une passion commune que tout le monde a dans la famille?
Je pense qu'au début, c'est parti d'une pression du fait que mes parents, mon père, il a eu la chance d'aller étudier en Europe. Un peu fou ce qu'il a fait, il est parti en Russie. On part dans les années 70. C'est la place... noir en Russie, c'est vraiment... lui, il a eu une certaine pression parce qu'il venait d'une famille assez grande. Et t'as la pression de performer. T'es la première personne qui sort, on s'attend à ce que tu rapportes et tout. Fait que là, il est revenu médecin. Et c'est quelque chose qu'il a passé à travers la famille. Et c'est pas quelque chose de mal. Souvent, on peut le prendre mal en disant que... oh, mais tu sais, j'ai juste envie de faire ce que je veux. Mais souvent, nos parents le font dans une manière.
C'est pour notre bien.
Ouais, pour nous protéger, parce qu'ils savent que c'est difficile de.
Ils veulent le meilleur pour nous. Exact. Ils savent que c'est beaucoup de pression, mais ils se disent, si moi je l'ai fait, puis que je vis bien aujourd'hui, puis que toi, t'es la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça.
Exact.
Sauf que t'es mieux de faire bien du cash, puis d'être vraiment cette.
Exact.
Et hopefully d'aimer ta job, tu sais, mais dans le meilleur des cas. Aide des bonnes conditions de travail, puis fait beaucoup d'argent.
C'est beaucoup la notion d'héritage aussi.
Hein. J'ai bien aimé ce que tu as dit, aider mes ta job. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Mm-hmm. C'est que je me suis dit, bon, c'est très important d'être stable, surtout financièrement, d'où je viens. Alors, c'était pour moi très important de trouver la manière la plus rapide de trouver un mélange entre stabilité et passion.
Ouais.
Fait que ça, c'était de savoir qu'est-ce qui me passionne assez, mais qui me permet d'avoir une certaine stabilité.
Ouais.
Et là, ben, c'est là que l'immobilier est venu. Ça vient d'une pression et d'une passion un peu.
C'est bon. Au moins, t'as la passion. C'est vraiment important, tu sais.
Ouais.
Ouais.
Oui. Puis justement, on en parle des fois ensemble. Tu me nommes souvent que au niveau des modèles dans la communauté noire, des fois, tu trouves que ce qui est un petit peu peut-être en lien avec l'investissement, l'économie, l'immobilier, tout ça, tu trouves que des fois, il y a peut-être un manque de représentation à ce niveau-là, comme si les modèles étaient un petit peu plus limités à ce que ça soit le sport, la musique.
Exact, exact. En quelque sorte, une des plus grandes questions existentielles que j'ai toujours eues depuis que j'étais jeune, c'était de comprendre pourquoi l'Afrique ne s'est pas développée au même rythme que l'Europe. Ça a toujours été quelque chose que moi et mon père, c'est des bonnes conversations que j'avais. Mon père, le fait qu'il étudie à l'URSS, l'ancienne Russie, le modèle communiste est pour lui quelque chose qui résonnait beaucoup plus. C'est quelque chose qu'il a vécu, il n'a pas payé ses études, ça faisait du sens. Mm. Le fait que je suis venu ici très jeune et que j'ai vu un peu le modèle capitaliste nord-américain, ben, ça m'a donné une vision différente. Alors, très jeune, moi et mon père, on s'est changé beaucoup d'idées, c'était de savoir pourquoi l'ère en vie, l'Afrique a toujours été en retard. Et c'est la raison pourquoi je suis parti en économie et tout, c'était de trouver c'est quoi la réponse. Mm-hmm. Et je me suis beaucoup plus basé sur moi-même ce que je vois, mon environnement. C'est pas quelque chose que de prouver. Je me suis beaucoup basé sur mon environnement, ce que je vois avec mes amis. Et ce que j'en sors, c'est que... un des plus grands problèmes qu'on a dans les communautés. Parce que être noir... être noir, c'est... L'expérience noire, c'est l'expérience partagée. T'as même pas besoin d'être en Afrique. Les Haïtiens vont le vivre. Nos expériences sont très semblables. Peu importe où tu vis, les communautés noires ont plus ou moins les mêmes enjeux. Il y a le racisme, il y a la discrimination. Et c'est... À force de me poser des questions, une des premières problématiques qui m'est venue en tête, c'est le fait que nos modèles de réussite... positifs ne sont pas assez mis de l'avant. Mm-hmm. Et les modèles de réussite qu'on a ne sont pas nécessairement positifs. Je donne un exemple. Au secondaire, j'avais une passion. Je voulais devenir un sportif jusqu'à mon secondaire 5. Le foot, c'était mon rêve. Mon grand frère, c'était la musique. Et maintenant, en prenant du recul, c'est qu'en grandissant au Québec, les seuls noirs que je voyais fortunés étaient à la télévision. C'était les rappeurs et les athlètes. So, grandissant, tu vas à l'école, tu vois personne qui te ressemble, tu vois aucun entrepreneur dans le coin qui te ressemble, tu rentres à la maison, tu vas sur BET, boum, tu tombes sur quelqu'un comme Nelly, tu tombes sur quelqu'un comme Didi, il est charismatique, il s'accepte, et là tu dis, ouais, ok, il fait de l'argent parce qu'il est dans la musique. Ou quelqu'un que j'aime bien, Reggie Bush, il fait de l'argent parce qu'il est dans le sport. Fait que là, tu commences à dire, ok, c'est les modèles de risque, c'est les modèles que... Mais c'est malsain parce que, par exemple, un sport comme le foot, t'as 2% de la population américaine qui va s'y rendre. Fait que c'est quoi? C'est peut-être 500 personnes par année max. Mm-hmm. Alors, si toutes les jeunes veulent tous se rendre dans le NBA et tout, c'est malsain parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui peuvent s'y rendre. Mais si tu changes la donne, si par exemple tout le monde veut devenir entrepreneur ou tout le monde veut...
Oui, comme infirmier, avocat, juste des modèles partout. La représentation, encore une fois, si on avait plus de représentation... Je veux dire, est-ce que j'aurais voulu être blogueuse dès l'âge de 12 ans? Peut-être, probablement, mais je l'ai su à quoi, 20-quelques?
Ouais.
Parce que j'ai vu personne comme moi le faire.
Exact.
Puis c'est pas tout le monde qui ose créer sa propre voix. Il y a des gens qui ont besoin de voir des gens pour s'identifier.
Mais oui, c'est normal.
On veut tous, on est tous des enfants un jour, là, on veut look up to des femmes comme Lizzo, bien des médecins, des scientifiques, comme j'ai dit, n'importe quoi, là, juste voir des gens qui nous ressemblent dans une position de pouvoir.
Et ça nous donne l'idée qu'on est capable. Ça nous donne l'idée qu'on est capable. Waouh, ok, il a pu le faire.
On veut juste savoir qu'on est capable.
Exact.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que maintenant, avec le temps, je me rends compte, c'est sûrement une des, un des choses qui nous manque le plus dans nos communautés, c'est que nos leaders, les gens qui ont la possibilité d'être leaders, on les met pas assez de l'avant. Ou souvent, c'est que c'est un peu difficile parce que c'est un peu le concept de crab in a barrel. Like, quand quelqu'un veut s'en sortir, tout le monde le pousse vers le bas. C'est mal vu. Être nerd, je me rappelle, quand on jouait au foot et tout, tu te pointais à quelque chose de nerd, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas cool, tu vois, c'est mal vu. Et là, en grandissant, ben, en lisant, je me rends compte que c'est quelque chose qui manque dans la communauté. Le fait que les role models qui sont positifs, ouais. ben, premièrement, on leur pousse pas à être de l'avant. Et ils sont juste pas vus comme quelque chose de positif ou quelque chose de bien.
Puis sachant que parmi les différentes communautés, c'est sûr que spécialement la communauté noire, je veux dire, il y a des siècles de pression, il y a un gros retard encore aujourd'hui au niveau de l'économie, que ça soit dans les possessions qu'on peut avoir comme une maison ou quoi que ce soit, il y a eu tellement de ségrégation qu'on peut pas le nier aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que spécialement, selon toi, c'est plus difficile au niveau de la communauté noire, alors que des fois, on va parler peut-être de la communauté juive, communauté asiatique, où est-ce qu'ils ont quand même ce pouvoir économique-là à l'intérieur?
Là encore, je me base vraiment sur mon espérance, sur ce que moi, je vois. Je pense que tout part du fait que s'il n'y a pas un modèle fort, ça n'a pas besoin d'être le père de la famille, mais un modèle fort au plein de la... Ça peut être un oncle, ça peut être un ami proche. Je pense que ça part par ça. Je pense que ça, c'est la partie où nous, on prend la responsabilité. Il y a aussi une autre partie du fait qu'il y a un système qui est en place qui est un peu difficile. C'est un système qui est en place qui est... Je veux dire, c'est prouvé de savoir que... t'as même pas besoin d'aller loin, tu peux juste rentrer dans ta communauté, demander à tes parents que on t'a toujours dit que en tant qu'homme noir ou en tant que femme noire, il faut que tu travailles deux fois plus que l'autre. Et quand tu grandis avec cette idée-là, tu pars ta vie déjà en sachant que ça va être difficile, en sachant que t'auras des barrières. Et ça, c'est la partie où on n'a pas nécessairement le contrôle, mais nous-mêmes dans notre communauté, c'est vraiment d'avoir des modèles. Je pense que pour moi, c'est ça qui a eu le clic, le fait que j'ai eu un modèle, quelqu'un que, ok, je l'aime bien, je l'apprécie, j'ai envie de faire la même chose qu'il veut faire. Puis le fait que lui, il était capable, oh, tu sais quoi, mais moi aussi, je suis capable. Et pour moi, le plus gros modèle que j'ai eu, c'était mon père. Et je me rappelle, quand je suis parti en Alberta, j'ai eu la chance de bouger un peu, je rentre dans une école et tout, je voulais devenir ingénieur à la base. Ingénieur, c'est mon truc. Je voulais devenir comme le gars de Iron Man. C'était vraiment mon rêve quand j'étais jeune. Et je trouvais ça trop difficile. Mais après ça, mon père me disait, oh, mais tu trouves ça difficile, mais moi, j'ai quitté à l'âge de 18, sans ma famille, j'étais en Russie. Là, tu te dis, ouais.
Ok, then.
So,
c'est ça remet le truc en
place. C'est ça, exact. Et mes parents, disons, ma mère aussi a été magnifique sur ça, sur le fait qu'à toutes les fois qu'on vivait quelque chose de dramatique dans la famille, même quand on a fui la guerre, ils mettaient toujours tout d'un point de vue positif. Ok, mais t'as vécu ça, mais ça t'a rendu plus fort. T'as quelque chose de plus que les autres. So, je pense que moi, chez nous, on était vraiment chanceux parce qu'on a eu des modèles qui étaient proches. Mais c'est pas tout le monde qui a accès. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Je veux dire. La plupart de mes amis, on vient tous de zones de crise. Fait que tu quittes une zone de crise où t'as peut-être perdu plein de membres de ta famille, t'arrives ici, c'est difficile de juste y croire que t'es capable. Surtout si t'as pas de modèle, comment tu... C'est par où que tu commences en disant, tu sais quoi, je repars à zéro, mais oui, je suis capable. C'est par où que tu commences. Et pour moi, je trouve que ça passe par les modèles.
Donc, t'attribues au manque de représentation, au manque de modèles, l'accessibilité.
Exact.
Mais je pense aussi au fait qu'on dirait qu'on n'a pas beaucoup de modèles de réussite au niveau économique parce qu'on... J'ai l'impression qu'on gère mal l'argent.
Ça, c'est vrai.
Est-ce qu'on peut en parler? Je veux dire, c'est pas juste moi, là. C'est partout. Je veux dire, allô, l'Afrique, on est en 2020, puis on est encore...
Ça, c'est vrai.
Genre, comme si... Tu sais, je comprends pas qu'on soit... Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est le fait qu'on vit juste dans un monde qui est 100% oppressant envers nous pour tout? Je veux dire, si je vais à la banque pour un prêt, c'est sûr que j'ai moins de chance que Nicolas d'autre. Tremblay, genre, qui est blanc, puis qui vient ou qui vit au Québec. Puis...
Est-ce que c'est les tentacules du colonialisme qui sont
c'est
encore
ça.
Pour l'Afrique, je pense qu'il y a les deux facettes. Je pense que la solution de l'Afrique, c'est une solution où on doit l'aborder sur différents angles. Je pense que dans la conversation, il doit y avoir tout le monde. Je me considère, bon, la plupart des gens me considèrent comme un capitaliste.
mais tu nous disais opportuniste.
Ouais, c'est ça.
Non, mais je me considère comme un opportuniste. Mais je pense que pour l'Afrique, ça prend différents angles, différentes visions. Moi, la mienne, c'est pas nécessairement la meilleure. Ça c'est, je pense qu'elle marche parce que c'est ma personnalité et ça marcherait sûrement avec d'autres personnes de ma personnalité. Pour l'Afrique, pour moi, ça passe, ça c'est quelque chose que j'en parlais beaucoup à mon père, moi, la solution, ça passe par une responsabilité de soi-même. Et c'est quelque chose qui manque chez nous. Mais c'est difficile un peu parce que en donnant le pouvoir à nos leaders pour avoir des solutions. Mais nos leaders sont corrompus. Alors que c'est un peu difficile. Et aussi, c'est qu'on a, il y a ce concept en économie qu'on appelle l'exode des têtes, où par exemple, tu as un pays qui est en conflit, mais les gens qui peuvent sortir du pays, ben, c'est souvent des gens qui sont très intelligents. Et le cas de mon père, c'est littéralement ça. Mon père, c'est un des médecins et tout, mais le conflit l'a poussé à sortir. Fait que le pays perd quelqu'un qui pourrait apporter. Alors, un pays, par exemple, qu'il y a eu beaucoup de conflits, ben, tu te retrouves avec toutes les personnes qui peuvent changer le pays à l'extérieur. Et qui reste pour développer l'idée? C'est peut-être des gens qui sont corrompus. Je ne dis pas que c'est nécessairement tout le monde, mais à la fin, c'est que les gens qui peuvent, les gens qui
connaissent... Les gens avec le plus de potentiel, ils sont partis, ils ont vu l'opportunité ailleurs, puis ils l'ont pris.
Tout à fait.
Parce que pourquoi j'ai fait mes études toute ma vie? Et là, ben, je ne peux pas travailler alors qu'on peut me proposer de travailler ailleurs. Et c'est à cause de ça que c'est très difficile. Mais là aussi, comme tu dis, il y a le côté colonialisme.
Oui, c'est ce qu'on discute des fois, qu'il y a encore aujourd'hui des dettes qu'on doit à la France ou qu'on doit à d'autres pays. Il y a des redevances. On ne sait même plus pourquoi on doit payer ça, alors que c'est nous-mêmes qui se sont fait coloniser. Il y a aussi
Ça fait aucun sens. Je dois payer pour mon oppression.
Je veux dire, chez nous, on a le franc CFA. Et le franc CFA, c'est la France qui l'imprime.
C'est ce que tu disais l'autre fois quand on discutait, qu'il y en a qui vont dire que c'est à la fois un miracle et une malédiction d'avoir autant de ressources sur le sol africain.
Ça, c'est quelque chose que j'y pense. Je pense que c'est une malédiction et une bénédiction du fait qu'on a un sous-sol riche.
Ouais.
Si l'Afrique était pauvre, il n'y aurait pas autant de pays à l'international qui voudraient y venir.
Ouais.
Si le Congo n'est pas de... je ne sais pas ce qu'on les minerais pour les téléphones ou les diamants et tout, ben, il y aurait peut-être moins de compagnies qui seraient intéressées
Le cacao.
Exact.
Ouais.
Et sachant très bien qu'on n'avait pas de ressources, ben ça nous poussera à réfléchir un peu plus. Parce qu'on se baserait sur une économie qui viendrait de l'innovation, pas nécessairement de juste sur les ressources naturelles. Mais d'un côté, c'est que si on a un gouvernement fort, des institutions fortes, on pourrait vraiment profiter de ces ressources-là, un peu comme à Dubaï, où ils profitent du pétrole pour développer leur pays.
Ouais.
Alors, c'est vraiment un double tranchant. Pour l'Afrique, je pense que ça prend vraiment une table où différents backgrounds, différentes expériences arrivent pour trouver une solution. Et là encore, je pense que ça serait un changement de valeur et de culture. Quelque chose que, là, je vais me faire tuer par mes collègues africains.
Non, dis-le.
Quelque chose que je trouve encore dur, c'est le fait qu'on le sait maintenant que la colonisation nous a apporté la religion. Mais d'où je dis, on est hyper religieux. On y croit. Alors, c'est vraiment c'est de se remettre en question. Qui on est, d'où on vient et qu'est-ce qu'on veut. Mais c'est difficile. Mais je pense que ça commence par ce que vous faites en ce moment.
Est un produit de la colonisation.
Ben, non seulement ça, mais ça nous nuit plus que d'autres choses. C'est juste...
Ça fait partie du contrôle.
Ouais.
Ça fait partie du contrôle.
La religion, c'est un outil. Cet outil peut être positif comme négatif.
C'est un outil de contrôle.
Mais de mon expérience, je vois pas comment la religion apporte quelque chose de bien en Afrique.
Pas de notre côté, en tout cas. Peut-être pour d'autres personnes. Fine, sure, it's good for you. Mais on dirait qu'en Afrique, on se met nos propres barrières pour des trucs qui font logiquement aucun sens. Aucun, zéro.
Il y a plein de vidéos sur YouTube, tu vois un pasteur qui pense qu'il va guérir quelqu'un ou que les gens marchent.
Ça arrive pour vrai, ces choses-là. Hein? Genre, les gens croient que parce qu'il y a un gars qui preach devant moi, tout d'un coup, je vais avoir un bébé. Non, il n'y a personne qui a de contrôle là-dessus. Sauf que la religion, ça endoctrine les gens. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre espoir que de croire à ça? Peut-être aussi, tu sais.
Si peut-être aussi. Dans toute leur résilience, je veux dire, il y a des limites à un moment donné.
Oui.
Puis c'est ça, c'est des fois, tout la pauvreté, la misère autour de toi, il faut que tu te l'expliques d'une certaine manière.
C'est ça.
Donc un peu, tu vas relayer sur la religion.
Et c'est là encore que, pour moi, ma solution a fait du sens. Parce que les gens qui ont cette connaissance, les gens qui s'y connaissent, ben, c'est un peu notre obligation, par exemple, à rentrer, à essayer de changer les choses. Parce que si on ne le fait pas, je veux dire, 50, 60, je ne vois pas comment les choses vont s'améliorer. Je pense que, là encore, la solution de l'Afrique, c'est que, par exemple, quelqu'un comme moi qui a la chance de venir m'éduquer à l'extérieur, de comprendre comment les choses marchent, en quelque sorte, c'est ma responsabilité de revenir pour essayer de changer les choses.
Oui, il faut.
Et là, c'est difficile parce que, il y a des fois, ben, tu n'as pas nécessairement la sécurité pour revenir, tu n'as pas nécessairement le type d'emploi, mais c'est là que le développement, je pense, qu'il va se faire.
Mais je ne pense pas qu'il faut nécessairement revenir, il faut juste être en contact avec des gens là-bas, au pire, tu sais, l'Internet, c'est great, là. Tu peux faire des choses à distance ou juste avoir des contacts sur place, ouais, puis les éduquer d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est vrai que c'est difficile de revenir, là.
Non, c'est vrai que c'est difficile.
Non seulement c'est difficile mentalement et tout, mais ça coûte vraiment cher, voyager en Afrique, là.
Ça coûte très cher et...
Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte.
Et on a grandi ici, alors on est habitué d'une certaine manière que les choses marchent.
Oui, 100%.
Ben ouais,
je veux dire...
Parce que toi, Jess...
Quand j'en parle, je planifie le faire cette année.
Ouais.
Mais quand je parle à mes parents, à mes grands-parents, comment les choses marchent, je sais qu'il y aura des clashs.
Oh mon Dieu,
je sais qu'il y aura des clashs. Et d'un côté, tu veux respecter parce que c'est la coutume, c'est la culture.
Ouais.
Mais d'un côté, c'est toi, tu t'es développé comme personne. Fait...
C'est moi, je suis retournée au Bénin une fois seulement.
Ouais.
Je pense que ça fait 4 ans. Ouais. J'avais 20 ans, genre, à l'époque. Puis c'était ma première fois. On est allé avec ma mère 2 semaines, je crois.
OK.
Et... C'était non seulement le plus beau voyage de ma vie, mais c'était aussi le plus dur parce que j'aurais jamais cru avoir d'un côté un si gros choc culturel alors que je viens de là, tu sais.
Ouais, non, c'est compréhensible.
Se sentir étranger d'une manière, genre je portais des boubous et tout, mais les gens savaient que je venais pas de là, tu sais.
Mm-hmm. Ouais, t'es capable de le voir.
Ils sont capables de le voir. Puis c'est pas juste ça, c'est le choc culturel de « on va à la banque ». Pour retirer des sous, puis ça prend 4 heures, genre, littéralement.
Et c'est des choses qu'on prend ici pour acquis, parce qu'il y a un système en place, il y a des institutions.
C'est là que tu reviens, t'es genre, waouh, à quel point non seulement je suis blessée, mais je suis, genre, ingrat, parce qu'on se plaint tout le temps ici. Oh non, le métro est en panne. Ouais, OK, mais t'as un métro. Allô, est-ce que tu peux juste penser à ça?
T'as un métro, t'as l'électricité chez toi.
Ce que tu disais au début, on est très privilégiés.
Je pense qu'il n'y a pas un jour où je me le rappelle pas d'une manière anodine ou non, tu sais.
Moi, je le fais constamment, je me rappelle tout le temps. Et c'est un outil que je m'en sers ici.
Oui,
c'est
juste pour garder les pieds sur
terre. Quand je vis quelque chose de difficile, je remets tout en perspective. Et Et tu te dis, OK, c'est peut-être mal, mais je suis très content d'être ici. Mmh.
Ouais. Puis non seulement ça te prouve juste que you'll get through it. Genre, peu importe c'est quoi l'obstacle, ça peut être hyper dur, mais on a vécu tellement de choses traumatiques.
Exact.
Puis on est encore là. C'est parce qu'on est résilient, puis c'est vrai, tu sais.
Le peuple noir ou l'homme noir avec un grand H, on est un des peuples les plus...
Sérieux.
À travers tout ce qu'on a traversé, le fait qu'on est toujours optimiste et tout, c'est un gros signe.
C'est fou. Si on pense à tout le processus de déshumanisation...
Sérieux, hein?
C'est...
Ouais. Juste aujourd'hui, en arrivant ici, j'ai ouvert Facebook. Il y a une page Facebook que j'aime, que ça s'appelle « Tout le hood en parle
».
C'est super bon. Il y a des partages d'articles... Juste qui parle des communautés racisées en général, que ce soit à Montréal, c'est une page montréalaise, ou à l'étranger. Puis j'ai vu un article qui disait que Starbucks au Canada, dans les aéroports, ils payent beaucoup moins les baristas noirs que les blancs. Ouais. C'est prouvé, genre. C'est dit.
Wow,
c'est fucked up, hein?
Ben ouais, c'est...
Après, les gens, ils disent que genre, non, le racisme, ça existe pas. Puis t'es comme, ouais, mais...
C'est beaucoup plus... Tu sais, à une certaine époque, tu le voyais... Par exemple, aux États-Unis, où c'était très flagrant à une certaine époque, là, tu ne pouvais pas t'asseoir si tu étais noir. Et là, mais maintenant, c'est beaucoup plus caché.
C'est émotionnel,
Exact. Mais de par vision, je suis quelqu'un de très optimiste.
Mm-hmm.
Et ça me choque tellement. Et à toutes les fois, je tombe sur quelque chose comme ça. Justement, je remets toujours ma théorie en place pour moi-même aussi me valider. Et c'est... Parce qu'on se sent impuissant quand ça arrive. On peut rien faire, on se sent impuissant. Ouais. On sait que ça arrive, c'est là. Et là, tu te dis, bah, je vais avoir des enfants et tout. Qu'est-ce que je veux faire pour que eux, leur espérance soit différente? Et
Oui, puis là, on parle d'impuissant, justement. On avait déjà parlé un peu de nous, où on en est un peu dans notre processus, un peu face au racisme, face au privilège. Parce que des fois, il y a des étapes un peu dans ça. Puis moi, il n'y a pas si longtemps, je t'en parlais, Jess, j'étais prise un peu pas dans la haine, mais un peu dans la rage, un peu de d'être éveillée et là, de constater tous ces privilèges-là autour de moi, tous ces incompréhensions, inégalités, puis ça serait facile de juste s'emporter et de monter très vite dans l'émotion. Mm-hmm. Puis on passe à côté du message. Toi qui, justement, occupe un poste important qui est largement avec une clientèle plus blanche, où est-ce que tu en es un peu dans l'éducation face aux autres? Est-ce que, tu sais, vu que tu dois avoir un côté professionnel, une face professionnelle, où est-ce que tu en es un peu pour te gérer?
Par rapport à ça, je pense pas que je suis la bonne exemple pour ça.
Mm-hmm.
En quelque sorte, le fait que j'ai traversé une guerre civile, pendant 3 ans, on était littéralement là-dedans. Il n'y a rien qui est arrivé et tout. Mais le fait que j'ai traversé ça, il y a pas beaucoup de choses dans la vie qui me font beaucoup réagir. Il y a pas beaucoup. Puis la manière que je vois le, si par exemple je tombe sur un acte qui est raciste, quelqu'un qui me dit quelque chose que limite qui est raciste, je le vois beaucoup plus comme de l'ignorance. Ça me touche pas. Je le vois plutôt comme, tu sais quoi, t'as de la haine, mais au fond c'est pas de la haine. Il y a juste quelque chose que tu connais pas ou t'es juste ignorant ou quelque part. Ça me touche pas vraiment. Mais là encore,
tu le prends pas personnel.
Exact. Et là encore, c'est mon expérience.
Je veux dire, t'as tellement vécu, t'as tellement vu que ça,
exact,
ça va moins.
Là encore, c'est mon expérience parce que mon meilleur ami, je m'appelle quand t'es jeune, lui, il devenait violent, il sortait de ses gants et tout, mais je veux dire, on peut pas combattre ça. C'est, la manière que je le vois, c'est que ça prendra juste du temps. Et moi, mes enfants, ben, ils iront dans des écoles avec les enfants de cette personne-là, et avec le temps, les choses vont changer. Et ça, je pense que la manière que je le vois, c'est ce que aussi on met de l'avant comme combat, mais le vrai combat, c'est le pouvoir économique.
Oui,
pour moi, c'est littéralement ça le vrai combat. Parce que Starbucks, par exemple, l'exemple que tu viens de donner. Si la compagnie Starbucks, par exemple, il y avait des membres dans leur siège social de minorité, ce type de choses n'arriverait pas. Ce type de choses arrive justement parce qu'il n'y a pas assez de minorité dans la compagnie.
Oui, peux-tu nous vulgariser justement le pouvoir économique? On en a parlé dans l'épisode précédent, mais juste pour ceux qui seraient moins...
Le pouvoir économique, c'est quand même assez simple. C'est juste, en quelque sorte, c'est un rapport de force. De mon point de vue, quelqu'un qui est très opportuniste de nature, la manière que je vois la planète, c'est par rapport à un pouvoir économique. Je regarde sur le plan politique, par exemple, en ce moment, la raison pourquoi l'Afghanistan, je veux dire, ils n'ont pas trouvé la bombe atomique, ils sont fait attaquer, et d'autres pays ne sont pas fait attaquer, c'est parce que, par exemple, la Corée du Nord, c'est parce qu'ils ont la bombe, la bombe atomique. Et pour moi, c'est ça que revient le pouvoir économique. C'est que quand une minorité, vous avez beau être très petit, mais vous avez un certain pouvoir économique, la plupart des gens ne voudront pas vous toucher. Parce que tout se passe par l'argent.
Donne-nous des exemples de pouvoir économique.
Exemple de pouvoir économique. Un exemple qui me vient en tête. Par exemple, chez toi. Attends, je suis en train de chercher. J'ai des exemples en tête, mais je n'ai pas envie d'y aller parce que c'est quand même assez large.
Moi, j'ai un exemple. Je vais répondre pour toi.
OK, j'ai un exemple.
Mais ça serait juste tes propres magasins, les épiceries, chinoises, les épiceries asiatiques, les marchés. Oui. Ça serait que ton argent, en fait, circule dans ta propre
communauté. Tu redonnes à tes gens.
Et aux États-Unis, ils ont fait une recherche sur ça. Ils disaient que dans les communautés noires, l'argent circulait, je crois, 1.2 ou 2 avant qu'ils sortent pour aller dans une autre communauté.
Oui, ça prenait pas beaucoup d'heures pour que ça sorte. Alors que dans d'autres
communautés asiatiques, ça circulait 7 fois, par exemple.
Oui,
ça
je veut pense dire que les gens moins... achètent
entre eux-mêmes. Est-ce que la communauté juive serait un bon exemple?
J'ai pas vraiment de données pour la communauté juive.
Oui, juive était très bon.
Par expérience, j'ai travaillé pour un monsieur qui était un Italien. Il est venu ici, il est peut-être 20-21, mais je me rappelle, c'était dans la construction, et à toutes les fois qu'il voulait magasiner quelque chose, il allait toujours auprès d'un autre Italien. Il me disait, si je ne le trouvais pas, c'est là que je sortais à l'extérieur. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que c'est une petite communauté, ils s'entraident tous entre eux. Et c'est quelque chose que dans notre communauté, on devrait avoir un peu plus.
Vraiment. Mais c'est comme il y a eu une émission avec Killer Mike qui essayait pendant 24 heures de survivre en consommant et en utilisant que des produits venant de sa communauté. Ouais. Et je veux dire, il y a vraiment eu de la difficulté. Là, il a dormi sur un bench d'un parc parce qu'il n'y avait pas
d'hôtel, je pense.
D'hôtel ou. Ouais. C'est ça.
Ouais. Oh my God, non.
Et ça pourrait faire partie d'une certaine solution parce que, surtout, la réalité américaine, moi, c'est ça que je vois comme solution chez eux. C'est le fait que, souvent, ils se sont beaucoup maltraités parce que il n'y a pas assez de minorités dans certaines compagnies et c'est à cause de ça qu'il y a plein de choses comme ça qui se passent. Mais si, par exemple, le gouvernement américain, la manière qu'il voit, parce que je pense que le pouvoir économique des Noirs américains est de 1,2 trillion, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez massif. Si du jour au lendemain, toutes les Noirs veulent dépenser dans leur communauté, ben, toutes les autres compagnies, ils n'auront pas le choix de s'adapter en se disant, tu sais quoi, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'argent de ces communautés-là? Ben, la manière de le faire, c'est de les respecter.
Oui.
C'est qu'ils se sentent bien.
Oui.
Et ça pourrait
être... Oui,
les inclure aussi, l'inclusion, encore une fois.
parce que moi, ce que je vois, le smoke screen que je vois, c'est que... je t'en parlais justement, c'est qu'ils vont faire un show, ils vont mettre un noir ou une asiatique. Oh, on accepte les minorités. Ils te mettent de l'avant, mais... Si tu regardes dans la compagnie, il n'y a pas de ownership. Et c'est quelque chose que j'aime bien avec Beyoncé et Jay-Z parce que je crois un peu que Beyoncé, dans une de ses chansons, elle disait je ne me paye pas, donne-moi du ownership. Parce qu'à la fin de la journée, on va te payer, tu seras à la face, on va dire que oui, on est équitable et tout, mais ton contrat dure 2-3 ans, mais dans le siège social, il n'y a rien qui change. La politique, il n'y a rien qui change. Mais si, par exemple, dans la compagnie, il y a des gens en pouvoir qui sont de minorité, ben là, il y a quelqu'un à l'intérieur qui peut dire, tu sais quoi, c'est pas correct, ça. Comment ça, la compagnie?
Ça me fait comme repenser tous les contrats que je prends. Wow!
Mais c'est ça, en fait, c'est à la fin de la journée, ton pouvoir, ton vote, c'est par ton pouvoir économique.
Exact, exact. Et aussi, c'est que les compagnies où il y a des minorités, souvent, ils sont plus profitables que les compagnies qui en ont pas. Parce que justement, la vision de d'autres personnes, ben, ça enrichit une compagnie, ça apporte une certaine valeur. Alors, c'est...
Le soupir!
C'est oui.
Ouais.
C'est ça l'est, mais...
C'est lourd. Hein.
C'est une grosse question. Et c'est à cause de ça que j'apprécie vraiment ce que vous faites en ce moment, parce que vous avez créé une plateforme. Et c'est ça, justement, que les gens minorités ont... C'est plus une question de choix, on doit vraiment le faire. Si tu es dans une position de pouvoir, il faut vraiment que tu crées une plateforme. Parce que ça se peut qu'il y ait une petite fille qui est arrivée ici à l'âge de 12 ans, qui a 15, qui se remet en question et tout, elle tombe sur le podcast, elle tombe sur toi, Jess. Oh, je suis béninoise. Oh, waouh, mais attends, j'ai un exemple d'une béninoise qui s'exprime. Et pour elle, ça sera un modèle qu'elle aura en tête. Et ça, quoi, ça, c'est très important.
Oui, tu disais des group economics. Donc...
OK. Fait que le concept de group economics, c'est à peu près le pouvoir économique en quelque sorte. C'est juste qu'un groupe se met ensemble pour l'atteinte d'un but économique. Okay. Aux États-Unis, il y a des gens qui le font en quartier. Par exemple, imaginons que vous avez un quartier qui tombe en ruine. Ben, les gens du quartier vont s'asseoir ensemble, ils vont tous mettre un certain montant par mois, puis ils vont racheter le bloc qui tombe en ruine, par exemple. Comme ça, ben, ils protègent un peu la valeur de leur quartier.
Ouais, okay.
Et ça peut être appliqué à plein de choses. Ça peut être... C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire avec mes amis, mais bon. C'est quand même impossible parce qu'on a toujours tendance à penser à court terme et pas à long terme.
Okay.
Alors, c'est que j'ai plein d'amis africains comme moi de différents pays. Ben, on peut tous s'asseoir. On peut, je sais pas, mettre 500 $ par année ou un certain montant et faire un projet en Afrique. Ou faire un projet où limite, on peut être 15, vu que la plupart d'entre nous, nos parents, c'est des premières générations, fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ben, de se dire, tu sais quoi, écoute, tu veux devenir, je sais pas, tu veux ouvrir un cabinet ou un salon de coiffure, on va se mettre tous en communauté, on va te pitcher de l'argent, et boum, on te finance le truc. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller auprès d'une banque. Mais ça prend de l'organisation, ça prend du leadership, ça prend quelqu'un qui peut aller de l'avant.
Mais ça se fait.
Ça se fait. Il y a des exemples, il y a un monsieur qui s'appelle Jay Morrison aux États-Unis, que j'apprécie beaucoup, il a créé un fonds d'investissement. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans des communautés en majorité noire, et il rachète et il retape. Ça se fait. Il y a beaucoup de modèles qui existent, mais comme je dis, c'est que ça prend quelqu'un qui est assez fort, assez de leadership pour...
C'est que souvent, les gens sont réticents face à l'investissement parce que justement, t'as pas ton profit tout de suite, donc...
C'est que les gens de minorité, c'est mal vu. C'est mal vu aussi. Je veux dire, même moi, je suis un peu victime de ça. Si je vois un écran frère noir qui se pointe et qui se présente comme quelque chose, je serais peut-être moins réticent à faire affaire avec lui. Et ça, c'est parce que à travers le temps... C'était toujours difficile entre nous-mêmes de se donner confiance. Alors que dans d'autres communautés, pas nécessairement. En fait, c'est vraiment un travail à faire. Mais je pense que toute personne qui est en position de pouvoir, ben, c'est un peu notre espace. C'est comme ça qu'on peut changer les choses. C'est vraiment comme ça. C'est la solution à court terme et à long terme.
Donc, tu crois que c'est une responsabilité qu'on a?
Je pense que c'est une responsabilité. Ouais. Mais il faut vraiment être fort. Parce que, je veux dire, c'est pas juste être bon en affaires. C'est que tu vas te faire attaquer.
C'est pas donné à tout le monde.
C'est pas donné à tout le monde. C'est un gros travail, ça va être difficile parce que déjà, je veux dire, si tu te lèves au jour au lendemain, tu dis à tes parents, je sais pas, je vais ouvrir un restaurant, ça se peut que même ta propre famille te dise non, c'est pas une bonne idée. Parce que pour eux, ils ont été conditionnés à penser stabilité est égal
salaire.
Ils
voient le risque puis ils sont pas dans avec ça.
C'est ça, exact. Ouais. Fait que c'est difficile. C'est pas que genre t'as un oncle qui est un entrepreneur qui a fait beaucoup de succès qui va dire, oh, tu sais quoi, hey, je m'y connais là-dedans, je vais te financer. C'est vraiment toi-même, c'est toi et tes amis, parce que tes parents, c'est souvent première génération ou deuxième, fait qu'ils vont pas nécessairement comprendre ce que tu essaies de faire.
C'est vrai. Puis tantôt, tu nommais première génération. C'est vrai que là, il y a déjà un décalage, il y a un retard, parce que c'est-à-dire que si on compare à une personne blanche ici, que ses parents ont des maisons, ont des valeurs, ont des biens depuis des années, on se les transmet, c'est un héritage, c'est un capital qu'on se transmet. Toi, t'arrives, t'as pas de maison là, ici, t'as pas de valeur. Ça fait une grosse différence dans ton poids économique.
C'est sûr. C'est sûr, ben c'est un risque que je pense que toute famille immigrant... Tu repars à zéro en venant, en fait.
Claire.
C'est normal. Et je pense que c'est à cause de ça que souvent, les enfants de ces familles-là, on a encore une plus grosse pression comparée aux autres. Je veux dire, moi, je ne peux pas appeler mon père en disant que tu sais quoi, je veux juste arrêter de travailler, je veux voyager pendant une année. Ouh. Il va me regarder, il va faire ouh. Tu vois, je peux pas.
Quand j'ai dit à ma mère que je partais genre deux mois, tu sais, genre, tu vas partir pour aller où?
C'est ça. Et ça, t'as même pas besoin d'être noir. Je pense que toute famille, peu importe d'où tu viens, toute famille immigrante, tes parents vont te mettre une pression à. Et tu sais quoi, aux États-Unis, il y avait des stats qui disaient que la plupart des gens qui sont self-made, c'est souvent des premiers ou deuxième génération. C'est la part des gens qui réussissent son affaire. Parce que t'as cette drive de plus. T'as pas genre des parents qui sont assez confortables où tu peux appeler. C'est sur toi. C'est sur toi. Ouais. C'est... Limite, si tes parents vont en retraite, ils vont compter sur toi. So.
Oui, c'est ça. Puis il y avait un truc qui disait, en fait, qu'ils comparaient un homme noir et un homme blanc. Tous les deux venaient de sortir de l'université. Et ils observaient les cinq années, en fait, qui suivaient. L'homme blanc, en fait, son capital allait augmenter, alors que la personne noire, ça diminuait. Parce que, justement, dans son réseau, elle était comme une des seules éduquées. Donc, elle devait vraiment être comme le pourvoyeur pour les autres. Donc, elle s'appauvrissait un peu à travers ça.
Exactement.
Mais ça, c'est une triste réalité, mais je l'accepte. Je l'accepte parce que je le comprends qu'on repart à zéro. C'est quelque chose que je comprends. Ça me donne un poids de plus, mais c'est quelque chose que je comprends. Et pour moi, c'est encore plus important parce que la journée que j'aurai des enfants, ben, j'ai envie qu'ils se basent sur moi comme modèle. J'ai envie qu'ils se disent, oh, tu sais quoi, mon père est venu ici, il était capable de faire ça. Mais tu sais quoi, moi, si je peux pousser plus loin. Parce que eux, en grandissant, peut-être qu'ils auront la même réalité que moi. Fait en ayant un modèle à la maison, en leur disant, tu sais quoi, je trouve ça difficile, blabla. Eh, mais mon père, il est arrivé ici, tu sais quoi, dans les années 2000. C'est encore plus tough. Alors, ça te met un peu plus de choix, mais c'est quelque chose que j'accepte. C'est quelque chose que je sais que c'est important. Et surtout, c'est que je ne peux pas dire à tout le monde que j'ai un modèle, mais moi-même, je ne l'applique pas. Fait que...
Mais tu as beaucoup de positivisme face à ça, parce que c'est vrai que ça pourrait être tellement facile de s'apitoyer un peu, de se sentir un peu quasiment une victime dans tout ça.
Tu es aussi un homme noir, là.
Oui.
Je veux dire.
C'est vrai que c'est différent si tu es une femme. C'est vrai que c'est différent. Non, c'est vrai, ça, je l'avoue.
Dans l'intersectionnalité, notre sujet préféré, tu es un privilège.
C'est sûr. Et j'ai une sœur et c'est la même chose. Et là encore, je veux dire, c'est sûr que j'aurai des filles. Mais qu'est-ce que je vais faire pour que mes filles ont la même drive, le même optimisme que mes enfants? Ben, c'est justement m'assurer qu'en grandissant, qu'ils ont des modèles de femmes noires dans son entourage. Parce que c'est... Moi, c'est ça que je vois. Parce que jeune, j'ai eu la chance d'avoir quand même des modèles. Mon père m'en a donné. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui m'a accroché. Ces temps-ci, c'est Elon Musk. J'ai lu son livre et là, j'ai l'impression que je découvre un nouveau monde qui a été caché. De se rendre compte qu'il y a des gens sur cette planète que leur but, c'est pas juste d'être riche, que c'est vraiment de changer les choses, c'est de pousser les choses.
Le gars de Tesla.
Fait que là, on dirait que ça te donne une vision. Là, tu te dis, OK, ce que je fais, c'est pas assez. Là, je peux en faire plus. Mais c'est donner les mêmes outils à mes filles. C'est de leur dire que...
Puis c'est là que tu distingues un peu le fait d'être wealth puis juste rich, là, un peu.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ouais, parce que la richesse, c'est bien plus que ce que tu as dans ton compte de banque. T'sais. C'est tes valeurs, ce que tu transmets aux autres, ton implication, puis juste de vouloir faire une différence. C'est tellement plus powerful que juste de vivre puis de faire comme well one day I'm gonna die, t'sais, mais qu'est-ce que tu laisses après,
que tu passes à tes enfants,
c'est quoi ton héritage encore une fois. Je pense que je sais pas si c'est dans la communauté noire, la question d'héritage est tellement importante là. C'est tellement important puis c'est inquestionnable, genre il y a personne, ou en tout cas avec de l'ambition je dirais, et les moyens et le privilège qui va vivre sa vie sans vouloir laisser quelque chose en retour, genre j'en connais peu.
C'est vrai. Et chez nous, moi, c'était mes grands-parents, ma grand-mère. Surtout ma grand-mère qui a eu l'initiative très jeune. À l'âge de 16 ans, elle avait acheté plein de terrain. Elle était dans le futur. À son époque, en tant qu'une femme noire.
Elle était proactive.
Et là, toutes les fois que je parle à mes oncles, à mes tantes, ben, je me rends compte que les grands-parents ont passé des terrains. Fait que pour moi, c'est une manière de donner une certaine succession. C'est que ben, là, eux, en le faisant, ben, leur enfant ne part pas à zéro. Ils ont une valeur. Mais là aussi, c'est d'y penser, c'est de réfléchir, c'est de s'éduquer pour savoir comment le faire. Ouais. Parce qu'on a tendance à vivre à court terme. Alors, on pense qu'à nous, ah, j'ai un plan de retraite, mes enfants, tu sais quoi, ils vont aller à l'école, ils vont s'arranger.
Toi, concrètement, ça ressemble à quoi un peu ton engagement dans le pouvoir économique? Est-ce que c'est au niveau de la bourse? Même si je sais un peu la réponse.
Ouais, j'entends, tu te poses des questions comme si tu lui mets les mots dans la bouche, là.
Tu répètes ta question. Tu me demandes ma part de responsabilité.
Mais concrètement, je me demandais qu'est-ce que tu fais là pour ton pouvoir économique. Toi, okay, t'achètes des maisons, tu joues avec tes stocks à la bourse.
Ok. Alors concrètement, ce que je pense, je suis toujours à une étape de ma vie où j'ai l'impression qu'il faut que je continue encore à apprendre. Il faut que premièrement que je sois dans une place où j'ai un pouvoir pour engager des personnes. Et ça, je suis très content de ma job en ce moment et tout. C'est quelque chose que maintenant, j'ai un choix décisionnel dans ma compagnie. Et c'est là que je me rends compte du pouvoir économique. C'est que vu que j'ai un choix décisionnel, je peux engager des gens, je peux aller chercher différents types de minorités. Et ça change la dynamique.
Wow, cool.
Et c'est quelque chose que, en ce moment, je ne suis pas encore dans une phase d'action. Je suis beaucoup plus dans une phase de... J'ai encore beaucoup à apprendre. Mm-hmm. Et ce que je fais concrètement, je travaille dans la gestion immobilière, fait que je continue à apprendre dans ce domaine-là. Et j'ai commencé à jouer avec la bourse. Et ce que je trouve vraiment important, c'est quelque chose que... Quand j'ai commencé à jouer là-dedans, je me suis rendu compte qu'il faudrait avoir plus de minorités. À toutes les fois que j'écoute la télévision, CNBC et tout tes blabla, je vois juste des blancs aux États-Unis et tout qui en parlent. Mais c'est quelque chose qui affecte tout le monde.
Ouais.
Si la bourse crache, c'est presque tout qui tombe. Et,
ouais.
Et là encore, c'est que j'ai l'impression que ça prendra un noir puis qu'il le fasse. Et là, d'autres, ça va continuer. Mais c'est quelque chose d'important et tout. Et c'est juste de comprendre comment l'économie marche. Je suis toujours à cette phase-là, de comprendre comment les choses marchent. Et j'ai trouvé mon chemin qui est dans l'immobilier et l'investissement. Fait que c'est juste de comprendre, continuer à apprendre. Mm-hmm. Et un jour, de faire une action, de peut-être me partir à mon compte ou que je serai assez haut dans la compagnie pour vraiment changer les choses, mettre mes idées en place ou juste engager plus de personnes. Ça pourrait juste être ça.
Déjà un très bon step.
Ben ouais.
Je pense que chacun fait ce qu'il peut. Ce que je me dis, c'est que il faut pas se... Je pense que les Noirs, ou bien les femmes noires, en tant que femme noire, j'ai l'impression que je me donne ce rôle-là à moi-même de super-héros, genre que je peux absolument tout faire, que je suis une femme forte, indépendante, et que je peux genre aller dans toutes les intempéries que la vie me donne, genre je suis capable de le faire, puis je suis capable d'en prendre, mais il faut connaître ses limites aussi, tu sais. On peut pas sauver tout le monde. Il faut... penser à soi aussi, c'est vraiment important. Fait qu'autant tu pourrais avoir tout le pouvoir économique que tu veux ou que tu peux dans ta compagnie, puis la seule action que tu peux faire, c'est d'engager les gens, c'est déjà beaucoup. T'es pas obligé d'être CEO plus. Là.
Exact.
C'est vrai. Je pense que...
Parce que tout le monde doit juste faire une seule action. Ouais. Ça fait une action à la chaîne.
C'est ça.
C'est juste ça.
On se met trop de pression, mais on fait notre possible, mais on se met beaucoup trop de pression.
Ah ouais.
Ouais.
Et il y a un monsieur que je suis sur YouTube, et justement, lui, il disait que sa job pour changer les choses, c'était juste de bien éduquer ses enfants. J'ai trouvé ça intelligent parce que si t'as cinq kids et eux, ils sont capables de comprendre ce message, c'est cinq personnes que eux, à leur tour, à travers leur relation, à travers leur enfant, ça fait un peu comme une pyramide. C'est comme ça que tu changes les choses.
Ouais.
On peut pas tout faire par nous-mêmes.
Non.
Mais on peut déclencher une réaction à la chaîne.
C'est ça.
Ouais. C'est littéralement ça.
C'est vrai, totalement.
Ouais.
Mais tu nous en as déjà donné plusieurs, mais on essayait que dans la fin de nos podcasts, on demandait aux invités concrètement, au-delà du fait d'en parler aujourd'hui, les trois ensemble, ce qui est déjà magnifique, là, mais c'est de voir si tu avais des outils ou des stratégies à donner aux gens.
OK. La première, je pense à mes enfants, ce que je compte leur faire.
Ouais, c'est ça, je suis avec guys. Pour baby point cute.
Ce que je pense, c'est que pour les filles, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je me rappelle quand Obama était passé au pouvoir, même auprès de ma communauté, les gens ne l'aimaient pas et tout. Et je veux dire, pour Obama, c'est juste l'image qu'il représente.
Mm-hmm.
Et c'est pas juste Obama, c'est Michelle aussi. Michelle, je la respecte beaucoup.
Moi aussi.
Plus éduquée qu'Obama, elle a fait plus d'études. C'est juste un ange.
Je
et pour moi.
Ouais, mais littéralement, sans Michelle, Obama serait pas qui il est aujourd'hui. C'est tout.
Alors, c'est de vraiment qu'en grandissant, d'avoir ce type de modèle et de le pousser à travers mes enfants. Mais, OK. Concrètement, quelqu'un de mon âge ou quelqu'un qui est au secondaire, qui écoute ça, je suis congolais. J'ai envie de penser comme lui. Ça serait de, premièrement, de se rendre compte. On a tous un talent dans la vie. Mm-hmm. C'est Steve Harvey qui le dit. C'est de se rendre compte qu'est-ce qu'on est bon à faire. Qu'est-ce que je suis bon? Est-ce que t'es bon à écrire?
Ou qu'est-ce qu'on aime faire?
Exact.
Parce que tu peux aimer chanter, puis pas être tant bon, mais prendre des cours de chant, puis éventuellement être le prochain Céline Dion.
Exact.
Tu peux faire beaucoup d'argent avec un side hustle. C'est pas obligé d'être une passion.
Mais oui.
Exact. C'est de se rendre compte qu'est-ce qu'on est bon à faire, et de trouver une manière de le concrétiser, de faire de l'argent par rapport à ça. Bon, là encore, c'est mes idées capitalistes et tout. Mais je... non, mais c'est vrai, c'est capitaliste
mais
un
c'est
peu
vrai,
de penser
la
que...
C'est vrai, c'est à ça. La fin, tu t'engages, t'as un poids, là.
Exact. Ouais. C'est de se rendre compte, OK, quel est mon talent? Et c'est très difficile parce que notre talent ne doit pas être basé sur ce qu'on voit. Et je veux dire, j'ai un petit frère qui joue au foot. À toutes les fois que je parle à mes amis qui sont un peu plus jeunes, tout le monde veut devenir un athlète. Malheureusement, c'est ça, mais c'est de vraiment poser la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est vraiment qui me passionne? Et c'est de trouver peut-être d'autres modèles ou quelqu'un d'autre qui le fait. Ça, c'est la chose la plus importante. Une fois qu'on est capable de trouver... Si, par exemple, tous les gens dans mon entourage, par exemple, qui se remettent en question, est capable de savoir qu'ils ne veulent pas tous devenir des athlètes ou être dans le monde de l'entertainment, mais qu'ils trouvent leur chemin, c'est déjà bon. Mm-hmm. Parce qu'ils vont devenir des modèles pour quelqu'un d'autre.
Ouais.
Puis c'est aussi quelque chose que je prêche beaucoup, c'est de comprendre la finance personnelle. Ça, c'est quelque chose que dans notre communauté, c'est pas
l'éducation
assez
financière.
Ouais, c'est... T'as pas besoin d'être calé, de passer tes journées à écouter, mais c'est juste de comprendre, comment le crédit marche? Qu'est-ce qui est un bon crédit? Mm-hmm. Comment je peux l'améliorer? Mm-hmm. Comment investir ou comment mettre de l'argent de côté? C'est quelque chose de très important. On est des premières, deuxième génération. C'est bon d'avoir un saving quand quelque chose de grave arrive. Comprendre ce type de choses-là. Puis maintenant, quelque chose que je prête, c'est au moins de comprendre un peu la bourse. Parce que tout le monde est affecté par rapport au mouvement de la bourse. Là encore, on n'a pas besoin d'être calé. Parce que la part d'entre nous, on va travailler dans une compagnie où il y a un fonds de pension. C'est juste de comprendre, c'est quoi un fonds de pension? Comment ça marche?
Yo, mais moi, je connais rien, là. Je fais quoi?
Non, je sais. J'ai des amis en économie que quand je leur en parle, c'est normal parce que je pense que là encore, la finance est faite d'une manière à être compliquée parce que c'est pour éviter que les gens la prennent facilement. Parce que si tout le monde connaîtrait comment la finance marcherait, justement, il n'y aurait pas de... Quand c'est financier, il n'y aurait pas
autant... T'aurais pas besoin de ces gens-là.
Exact. C'est pour ça que je pense que c'est très complexe pour vraiment que, tu sais quoi, on gage juste quelqu'un. Et là encore, pour changer un peu de sujet vite fait, parce que j'en ai parlé hier à mon ami qui est en développement durable, la pollution sur la planète ou les changements climatiques est souvent fait par certaines compagnies. Mais ces compagnies sont financées par qui? Certaines personnes vont dire, mais c'est une grosse banque. Mais les banques, c'est l'épargne de tout le monde. So, si quelqu'un est au courant de, tu sais quoi, ma compagnie me paye ou genre je mets de l'argent de côté, mais qu'est-ce que mon argent fait? C'est qui reçoit cet argent-là? Si ça tombe que c'est juste des compagnies pétrolières, tu te sensibilises, tu es capable de comprendre. Et là aussi, si toutes les minorités le font, c'est de savoir que qu'est-ce que mon fonds de pension fait? Tu sais quoi? La moitié de mon fonds de pension est dans Starbucks. Mais Starbucks, tu sais quoi? Ils ne payent pas assez bien. C'est juste de se rendre compte de notre pouvoir économique. Et là encore, tu peux pousser, tu peux commencer à investir toi-même et tout. Mais ça commence par là. Puis je pense que, il faudrait que peut-être que, je sais pas, il y ait des cours de finance et tout. Peut-être que... Je sais pas la solution, mais...
Est-ce que toi, t'écoutes des vidéos, des podcasts? Est-ce que t'as lu des livres ou vu des documentaires? Est-ce que t'en as conseillé
pour... Tous les soirs, je rentre du travail.
Il parle même pas. Il rentre du travail, il va sur Netflix.
Non, je te jure. Premièrement, je regarde la bourse au moins 8 fois par jour. Je regarde je l'ai sur mon téléphone. Mais c'est parce que je me rends compte que je suis vraiment passionné. Et
obsédé.
Je suis obsédé, ouais. Je suis obsédé.
Moi, c'est lucratif.
Au moins.
Et tous les soirs, sur YouTube, gratuitement, j'écoute des vidéos juste pour comprendre ce qui se passe. Et je pense que personnellement, j'aime pas me faire fourrer, je m'excuse.
Ah, c'est vrai.
Fait que j'aime comprendre ce qui se passe sur le plan politique.
Oui.
Parce que juste pour être au courant. Mais ça peut juste commencer par... On peut aller rencontrer un conseiller financier à Desjardins, par exemple. Mm-hmm. Il peut vous expliquer c'est quoi un compte d'épargne et tout. Qu'est-ce qu'ils vous garantissent. Mm-hmm. Tout le monde, t'as pas besoin d'être calé. C'est juste de comprendre tes propres finances, ton propre budget, où ton argent va. Et ça prête...
Je faisais... Okay. Petite anecdote, OK? Ouais. Je classais tous mes papiers d'impôts. Moi, je suis travailleur autonome depuis comme 2 ans, mais j'ai été salariée aussi. Bref, je classais mes factures. J'ai été voir, genre, dans mon compte Uber, quel déplacement était pour le travail et tout. L'argent que je dépense dans Uber, genre, ils devraient me payer. je suis comme leur client numéro 1. Je dépense beaucoup trop d'argent.
Moi aussi. Moi, c'est Uber Eats.
C'est tout. Merci.
C'est Uber Eats.
Uber Eats, oui.
C'est un testament que, genre, faut que j'arrête de faire ça.
mais tu sais quoi? J'ai commencé à acheter les actions d'Uber. Et là, on dirait que je me sens moins
mal.
Et là, j'ai l'impression qu'à toutes les fois que les gens me disent « mais je prends un Uber »,
tu me donnes de l'argent.
Exact. C'est ça. C'est...
OK. Ouais. C'est ça que je vais faire, même.
Alors, Jay, je viens juste apprendre quelque chose de nouveau. Tu travailles à ton compte?
Oui.
Bien, comment ça se passe?
ça se passe très, très bien. Je suis riche. Non.
Non, mais ton...
Knocks on all the wood.
Mais ton expérience, en quelque sorte.
Mais c'est dur, pour de vrai. Ouais. C'est stressant. Parce que tu peux pas prévoir les contrats. En tout cas, dans mon milieu à moi, ce qui est le marketing d'influence, j'ai la chance en ce moment d'être hyper sollicitée, mais c'est parce que je pense que je suis dans un prime time ou une ascension qui va super bien, tu sais. Mais pour quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, par exemple, c'est très possible qu'il y ait des périodes qui sont vraiment plus creuses. Puis il y a des gens qui ont des maisons, des enfants et tout.
Alors, c'est difficile d'avoir un revenu...
C'est difficile d'avoir un revenu stable. J'ai la chance d'habiter chez ma mère, fait que tu sais, j'ai pas ce stress-là financier. Mais sinon, c'est un
complètement correct, c'est
ouais, vraiment.
C'est correct.
Moi, je suis chanceuse.
Là, oui, il faut en profiter. Et...
ouais, vraiment.
Ouais.
Ouais. Mais fait que tu sais, c'est un apprentissage vraiment, surtout au niveau financier, parce que j'ai toujours été vraiment nulle pour gérer mon argent. Puis maintenant, c'est mon frère qui est comme, basically, mon frère, c'est toi, genre, comme vous êtes la même personne, tu sais, fait que. Il me dit, Jess, faut que tu comme mettes de l'argent de côté pour les impôts, pour les ci, pour les ça, les RIER, machin. Fait qu'il y a pas longtemps, j'ai justement rencontré une conseillère financière pour comme parler de toutes ces choses-là que à 25 ans, genre, j'aurais jamais eu le réflexe de le faire si c'était pas de mon frère. J'aurais même pas eu le réflexe. Mm-hmm. Mais jamais.
Mais
fait que, ouais, c'est
et justement, regarde, ça a commencé par ton frère.
C'est un modèle que j'ai eu. Tu
exact.
Vois?
Le fait qu'il y a quelqu'un de
représentation.
Proche qui t'en parle.
Ouais.
Et c'est... Moi, j'essaie de le faire chez moi, mais bon, c'est un peu difficile.
Ouais, je sais.
Mais ouais, ça prend quelqu'un autour et ben, toi, tu le passeras à tes enfants. Et...
À qui?
Ou peut-être à une cousine. Ou à une cousine quelque part ou à un autre membre de la famille. Mais c'est.
Peut-être.
Ben oui, c'est ça, ça. Au moins, il était assez proche pour t'en parler, pour te
sensibiliser.
Ouais, exactement. Ouais.
Clairement, ouais. Ouais. Mais en fait, merci beaucoup, Mervyn.
Ça fait plaisir.
C'était vraiment une discussion très enrichissante. Hein.
Oui,
très
moi, même si des fois j'ai un peu d'orgueil, j'ai de la misère à l'avouer, tu m'as appris beaucoup sur le pouvoir économique. Ça m'a beaucoup fait grandir dans ma perception de tous les privilèges, du racisme, de tout, de comment le combattre de manière quotidienne, mais plus concrète aussi. Tu sais, au-delà, encore une fois, de juste parler. Mm. À la fin de la journée, comment tu vas, tu sais quoi, ton poids, comment tu t'exprimes, ce qui parle à la fin, c'est vraiment actions, de manière économique, parce que c'est le langage de tout le monde, là. Tout le monde va se comprendre de cette manière-là.
Et c'est bon aussi d'être positif, parce que je suis toujours sur Twitter, puis à tous les jours, tu tombes sur quelque chose, tu te dis, mais c'est difficile, parce que t'as toujours quelque chose de confrontant, mais là encore, s'il y a quelqu'un qui l'écoute, et c'est une minorité, c'est de se rendre compte que, ok, oui, il y a des fois, les nouvelles, ça peut être horrible, mais si on veut changer les choses, il faut aller d'une manière optimiste. Il faut aller d'une manière de communication avec l'autre.
Ouais.
Même si on entend quelque chose de raciste. Parce que souvent, réagir émotionnellement ou par la violence ou par insulte, ben, ça emmène rien. C'est la portée de tout le monde sur la table, d'être optimiste. Ben, au fur et à mesure, on finira par changer les choses.
Ouais. Exact.
Amen.
Exact. Ouais. Mais d'accord.
Preach.
Preach.
Preach. Mais merci beaucoup à toi, Mervyn.
Un plaisir, les filles. Merci.
Merci.
Where I'm from, there's a lot going on. English meets French in every borough. No matter where you're from, downtown, DG, Laval, South Shore, West Side, North Side. In my city, every culture coincides. The African diasporas will collide. You are now tuned in with Jess and Annabelle. That's where we at, where we at, where we at, MTL.